bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bonjour et bienvenue dans la bande originale avec cette semaine une sélection des meilleurs moments et des meilleures émissions en compagnie de la bande au grand complet. Ce matin, un immortel, Eric Orsenna pour son dernier livre « Beau marché, un aventurier de la liberté ». De l'Académie française, de France Culture, il n'y a que des titres de noblesse.
Hein. De France Inter aussi.
Et France Inter aussi. C'est vrai qu'Eric, vous avez présenté tout au long de l'été 8 épisodes de 25 minutes sur France Culture qui racontaient Beaumarchais.
Vous vous rendez compte?
Et
c'est incroyable. Et je suis encore vivant.
Et je suis encore
vivant. C'était quand même rare.
Pas de vacances.
Notamment à l'Académie. Et voilà.
Immortel.
Et voilà. Immortel, mais pas éternel.
Belle formule. Beaumarchais, cet aventurier de la liberté. C'est vrai que, j'allais dire, tout est dans le titre. Le vécu, moi j'ai découvert, je ne connaissais absolument pas le parcours de sa vie.
Et ben moi non plus.
On avait retenu, si vous en saviez beaucoup plus que ça. On retient évidemment le barbier de Séville, on retient évidemment le mariage de Figaro, mais on ne savait pas, enfin je ne savais pas qu'il était horloger, qu'il était inventeur, qu'il était espion,
obsédé sexuel, vous saviez.
Oui, bah, ça évidemment, entre nous, on se réunit régulièrement.
Mais non, mais on ne nous raconte jamais ça à l'école, et je suis sûre que si on nous parlait de Beaumarchais en ces termes, en nous disant, racontez, qu'il est tel un chat, qu'il a eu mille et une vies, qu'il retombe sans cesse sur ses pattes, même si il y a pas mal d'obstacles sur son chemin, je suis sûre qu'on aurait une forme d'affection pour l'auteur et que ça donnerait envie de se plonger davantage dans ses textes.
Mais vous savez, moi je suis prof, hein. Je suis pas du tout créateur, moi je suis prof, je raconte des trucs, quand je fais un truc sur la grammaire en disant que c'est une chanson douce et que c'est pas une horreur, mais c'est mieux de ranger sa chambre quoi, de temps en temps, et donc c'est pareil, et donc quand j'ai raconté La Fontaine, on pense qu'il y a que les fables, en fait il arrêtait pas d'écrire des contes, qui étaient des contes incroyablement chauds, et donc il se faisait condamner à chaque fois, il revenait, donc c'est
Et vous ça. Étiez venu nous en parler ici à ce micro. Et finalement, les fables n'arrivaient qu'en bout de course.
Oui,
exactement.
C'est ça qui est amusant, c'est-à-dire raconter. Vous savez, moi, je suis romancier, donc j'essaye de trouver un personnage.
Ah ben là, vous l'avez trouvé.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est extrêmement connu et pas connu. Mmh. C'est-à-dire Beaumarchais, tout le monde sait. Mais qui sait que, par exemple, il a eu des idées parce qu'il était financier en même temps. C'est le roi du en même temps.
Oui. Déjà. Hein,
vous faites la vanne avec notre actuel président.
Évidemment, parce qu'il se trouve que je l'aime bien, on s'entend bien, pas toujours, mais enfin bon. Mais en tout cas, voilà. Et donc, en même temps, c'est pas lui.
C'est un peu la devise du siècle.
Ce que j'adore chez ce type, c'est que on peut avoir plein de vies. Et imaginez que je rencontre un jour le descendant direct de Beaumarchais. Jean-Pierre de Beaumarchais. Terrorisé. Donc je lui remets...
Ce qui est vrai, parce que vous dites, imaginez qu'un jour je rencontre, on pourrait imaginer que ce soit...
Vrai.
C'est vrai, vous le rencontrez.
De temps en temps, je ne dis pas que des mensonges. C'est vrai. De toute façon, je suis à France Inter, je suis obligé à être dans la vérité.
C'est contractuel.
Surtout dans votre émission, par contrat. Contrat gratuit, mais contrat. on pourrait parler de ça. D'ailleurs, j'ai une revendication syndicale.
Moi, c'est terrible. Il a raison.
Et donc, c'est Jean-Pierre de Beaumarchais. Je lui remets ce manuscrit, terrorisé. Donc j'attends la nuit et puis il m'appelle en disant c'est bien. Et comme c'est bien, il me fait un cadeau. Et le cadeau, c'est une citation. Citation de ce formidable poète portugais qui s'appelle Pessoa. Et il dit, n'être qu'un, une seule personne, est une prison.
Ouais.
Est une prison. Bah, nous tous ici, on a plein de vies. Et moi, quand je vais dans les classes, je dis aux jeunes, mais vous avez beaucoup plus d'existence que vous ne croyez de vie, vous pouvez être tout en même temps. Et puis, ou séparer, ça dépend.
Et quel que soit l'âge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment... Non, mais je ne parle pas pour vous, je parle de Beaumarchais, arrêtez.
J'ai déposé mon déambulateur en
Il n'y a pas un moment...
Ah ouais, c'est bien fait, là.
On a parking. Comme ça, et puis voilà, oui.
Donc, il n'y a pas un moment où lui s'est dit, j'arrête ou je me contente de cet état et de cette reconnaissance. On va en parler, en tout cas, de ce Beaumarchais. C'est absolument passionnant, cet aventurier de la liberté. C'est publié chez Stock. Mais d'abord... Oh my God. Encore plus facilement avec, appelle-moi Nagui, encore plus facilement avec l'absence de Daniel Morin, qui nous rejoindra lorsqu'il aura fini de faire des extras pour la direction de France Inter. On va jouer donc.
Oui, ça c'est une vie. Vous savez que ma prochaine biographie, c'est Daniel Morin.
Ah ouais? Parce que, ça va être une nouvelle alors.
Parce que la diversité de la vie de Beaumarchais par rapport à celle de Daniel Morin, c'est énorme.
Mais vous ne pouvez pas faire que des obsédés sexuels régulièrement. C'est bon. On va vous soupçonner de certains vices.
Encore qu'il y a un public.
Il y a un créneau. À 10 ans, Eric reprochait à ses parents d'avoir des amis, mais des amis.
Ennuyeux.
Exactement. Ouais, t'as bossé toi.
Oui.
Vous leur avez dit textuellement, vos amis sont pas intéressants.
Oui, ma mère me disait, mais pourquoi travailler autant? Parce que, au fond, je m'ennuie moins que là. Et je lui disais, mais pourquoi tous les dimanches, le dimanche à 12h31, qui est toujours un poulet, pourquoi pas? Mais qui est toujours les mêmes amis. Et qui raconte toujours la même chose, mais changé.
C'est méchant.
Et j'ai, c'est pas méchant, c'est affectueux pour eux.
Mais parce
pourquoi
que
ils étaient là?
Mais est-ce que vous venez de résumer, c'est la vie de millions de personnes.
Mais non, mais ils peuvent après. Alors moi, je regardais les gens qui passaient en bas de la rue de Vaugirard. Je me disais, ils doivent être forcément, il y a forcément des gens passionnants. Et je me disais, forcément, les gens, je les rencontrerai.
Non, enfin, vous vouliez qu'ils invitent Michel Strogoff plutôt que d'inviter leur ami, ce qui est quand même pas non plus à la portée de tout le monde.
Oui, mais si. Il suffit d'avoir
le portable, le 06 de Michel Strogoff.
Le 06 de Michel. De Strogoff.
Et vous auriez.
Et vient Michel Strogoff, vous savez, il est resté très simple, Strogoff. Hein.
Vous auriez rêvé d'avoir justement des aventuriers à table, d'avoir quel genre de.
Oui, tout le monde, je sais pas, moi. Après, j'ai eu cette chance à l'Académie, je suis fauteuil de Cousteau. Donc Cousteau, il m'a raconté des trucs avant que je le remplace, puisque si je le remplace, ça veut dire qu'il était parti. Mais des tas de gens incroyables. Alors on avait des personnages.
Non, mais quand vous étiez gamin,
oui,
vous auriez aimé avoir.
Mais on avait ça de temps en temps, mais pas suffisamment. Le frère de mon père était architecte et clarinettiste. Il est parti au Brésil, pauvre Brésil, pauvre Brésil, pauvre Brésil.
Ouais, aujourd'hui, ouais, c'est honteux.
Il est parti au Brésil juste l'année de ma naissance, et donc il était là, il nous racontait des histoires incroyables, parce qu'il travaillait avec l'architecte Niemeyer.
Oui.
Et en même temps, il était clarinettiste avec les plus grands musiciens. Oui. Et mon cousin était, jusqu'à une date récente, le saxophoniste de Georges Bem.
Alors, expliquez-moi votre définition de quelqu'un d'intéressant. Est-ce que quelqu'un d'intéressant, c'est quelqu'un qui a des histoires à raconter, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a une transmission, qui est pédagogue?
C'est une très bonne question. C'est quelqu'un qui a été, au bout de sa vie, quelle qu'elle soit. Moi, j'ai vu avec mes enfants, je leur ai dit, vous faites absolument ce que vous voulez. N'importe ce que vous voulez. Mais allez-y au bout. C'est-à-dire, vous
ne faites rien à moitié.
Ne faites rien à moitié. Mais même, vous savez, c'est la bataille des regrets. On en a parlé la dernière fois, mais j'ai pas beaucoup progressé.
C'est la bataille entre remords et regrets, c'est ça.
Oui, exactement. Ouais. Les remords, bon, très bien, mais les regrets, par exemple. Il y a 3 ans et demi, je me dis, t'adores la musique, tu sais rien faire. Tu regardes tes doigts, de temps en temps, tu peux faire des trucs avec tes doigts, mais bon, fais rien. Et donc, j'ai commencé le piano. Ouais. À 69 ans, le piano. Donc je suis nul. En dépit de mon prof que j'adore, Philippe Lecointe, que j'adore, je t'aime. Mais je suis très très mauvais. Mais de temps en temps,
ne pas s'interdire quelque chose. Bah parce qu'il y a le fameux.
Pourquoi
c'est pas pour moi. Il y a même des familles qui disent c'est pas pour nous. C'est-à-dire notre rang social. Voilà.
Mais attendez. Alors ça c'est par famille et c'est par genre, par sexe aussi. C'est pas pour les femmes.
C'est vrai.
Ou alors on peut dire, cette femme, elle est trop belle pour toi, et c'est pas pour les chauves. Mais je les emmerde.
Vous mettez des barrières.
Je les emmerde, les femmes.
Sûrement pas. Mais on est étonné. Moi, je suis toujours étonné d'une qui dit oui.
Et gratuit, c'est quand même fou.
Comprenez, à mon âge, gratuit.
On va en reparler. Ok, alors.
Et je vous assure, c'est ça. Donc, le possible est là.
Il y a même des parallèles.
Le possible.
Il y a même des parallèles avec Beaumarchais, ce que vous dites, Eric. Là, on va revenir à ça.
C'est mon maître à penser.
À partir de 13 ans, que fait Eric Orsenna tous les jours avant de partir à l'école?
Du latin.
Non.
Des pompes, du sport.
Ah, ça serait bien
il
ça.
Il écrit.
Non. Oui.
Il écrit, ouais.
Exactement. 1 heure d'écriture par jour.
Ouais.
Tous les jours.
Quoi qu'il.
Ben oui.
Et vous faites ça depuis vos 13 ans.
Ça, c'est très joli, quoi qu'il. Quoi qu'il, on dirait, c'est ça, c'est marrant.
Ben ça va avec le Kézako,
une coiffure. Bravo, le quoi qu'il. C'est vrai que très vite, j'ai écrit. D'ailleurs, avant 13 ans, à 8 ans, j'avais créé un petit journal qui racontait l'histoire de la famille. Et donc j'avais tout compris des mécanismes de la presse, puisque je disais à mes proches, abonnez-vous, autrement je dirai du mal de vous. Donc j'étais typiquement un patron de presse.
Et Guy Plenel l'a repris plusieurs années après.
Et ça fait référence à une de vos anecdotes aussi dans le livre, quand il est question de la famille Dassault,
oui.
Et dire que finalement pour gagner un peu d'argent, autant faire semblant qu'on va commettre une biographie sur...
Menaçante.
Menaçante,
ouais,
où il y aura des révélations un peu embêtantes.
C'est génial, ce
et on repart avec un petit peu de sous directement à la sortie du rendez-vous.
C'est de dire aux gens, je vais écrire une bio interdite sur vous, ou alors, et donc les personnes disent, bah, je vous l'achète.
Voilà de l'argent.
Voilà de l'argent, et ne faites pas la bio.
Mais quand on me demande l'origine de ma si belle voiture Aston Martin,
wow,
c'est mon projet de biographie de Nagui.
Vous avez la voiture de James Bond, sans blaguer?
Bien évidemment.
My
name is Eric.
Eric. Tout est possible, oui, absolument. Eric s'est beaucoup déplacé avec le président François Mitterrand. Quel était le moyen de locomotion préféré du président?
L'Aston Martin.
Non.
Le train, l'avion,
à pied.
Non. Le vélo?
Voiture?
Non.
Parachute. Le jet.
Non.
L'hélico.
Non, mais
non.
Non, mais on est amis.
C'est vrai.
Vous avez fait l'hélicoptère, ce qui est normalement une chose qui se fait uniquement en privé.
Il y a fait
son bras. Parce qu'après, on a des images.
Oui,
c'est pas bien.
Marina rougit. Incroyable. J'ai fait rougir Marina. C'était son moyen de transport favori. Pourquoi? Parce que c'était une manière de voir la France d'en haut.
C'est la France d'en haut. C'est relativement lent. C'était vous voyez, c'est 200 mètres de haut. Et alors, c'était extraordinaire d'être à côté de lui. Alors, c'est un peu inconfortable parce que les hélicoptères, c'est un bruit incroyable.
Ouais.
Et alors, il racontait la France. Donc, on avançait assez lentement. Vous voyez, on avance genre 200 km/h. Et vous êtes à 150 mètres, 200 mètres. Et vous voyez tout. Et alors, il savait la France complètement. Il savait pourquoi tel village votait à droite, tel village votait à gauche. Absolument. C'était une histoire... Il y a que Michel Charras qui a une connaissance comme ça de la... Il y a des gens qui ont une connaissance, mais cantonale. C'est-à-dire l'église, vous voyez, ici, c'est une église, ici, c'était une terre protestante, ici, c'était les terres de blé, ici, c'était l'orge, ici, c'était la lime. Regardez, alors, il y a des grands moments, regardez, ça, c'est la frontière de la vigne. Ça, c'est la frontière des tuiles, et parce qu'au nord, c'est les ardoises, au sud, c'est les tuiles. Mmh. Donc, on était dans ces grands historiens, genre Brodel, etc., où ils racontaient cet amour absolument charnel de la France.
En fait, quelqu'un d'intéressant, c'est quelqu'un qui vous apprend quelque chose. Soit
exact.
Par ses connaissances, soit simplement en racontant sa propre vie. Quoi.
Alors, il n'y a pas d'hiérarchie.
Voilà.
Du tout. Il n'y a pas du tout d'hiérarchie, mais qui prend son temps de me raconter.
C'est ça.
Moi, ce qui...
Oui, ça peut être un artisan qui voit
bien
son métier,
sa
passion. Voilà.
Il y a une intelligence de la main qui vaut bien l'intelligence de l'esprit. J'ai fait des livres sur l'art du geste, c'est-à-dire ce mécanisme-là, cette excellence incroyable. C'est quelqu'un qui a été un peu au bout et qui me permet d'explorer ce que c'est que le métier de vivre.
Ce que l'on retrouvera avec... c'est joli. Ce que l'on retrouvera avec, encore une fois, Beaumarchais. Enfant dans la famille Arnoux, hein, puisque c'est votre véritable nom de famille. Là aussi, comme Beaumarchais, vous avez pris un pseudo. Il fallait obligatoirement savoir...
Une poésie.
Non, il fallait savoir faire quelque chose, mais quoi ?
Réciter quelque chose.
Non, la cuisine.
C'est en lien avec la mer et les bateaux.
Cuisine.
Cuisine. Les nœuds.
Attaché. Non, mais cuisine. Cuisine aussi.
Ah, bah non, ça a un rapport avec la
avec
mer et
la mer.
Non, mais il a validé ma réponse. C'est bon, allez, un point.
Non, non,
ça
n'empêche pas. Les nœuds, les drapeaux.
Les marées, savoir se repérer, savoir.
Utiliser
quelque chose. Juste un indice. Quelque chose qui sert en politique.
Naviguer.
Non.
Louvoyer.
Non. Ah, mais arrêtez de faire des mimes, Eric.
Mais moi, je suis bienveillant comme garçon.
Nager. Oui, mais
je suis bienveillant comme garçon. Moi, j'aide le genre humain.
Bon, je peux plus arrêter la machine.
Je sais
pas.
En tout cas, c'était nager.
Oui, nager. Bonne réponse. Nager, absolument. Il faut savoir nager par quoi? Par sécurité.
Nager par sécurité, puisque comme très très vite on faisait du bateau, donc on était obligé de nager. Donc il y avait des tests, toute la famille regardait et on voyait si on avait réussi à faire centaines de mètres. Si on avait fait 100 mètres, on avait le droit d'aller sur un bateau à marée, c'est-à-dire faire de la godille. Ça. Et puis si on avait traversé une partie de la baie, on avait le droit d'être seul sur un bateau à voile, ce qui était le cas à 8-9 ans. Donc il y a toujours eu la même chose pour moi, c'est-à-dire écrire et naviguer, c'est pareil. C'est-à-dire hisser la voile et puis écrire sur la page blanche, c'est exactement la même chose.
Vous dites que Beaumarchais...
Parce qu'au fond, ça laisse aussi peu de traces.
Vous dites que Beaumarchais est l'aventurier de la liberté, la voile aussi, la navigation, c'est la liberté.
C'est la liberté, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route préétablie.
Non, il n'y a pas de route préétablie. À voile, on ne va pas forcément toujours où on veut. Il y a aussi
là
où le vent vous mène.
Attends, les livres non plus, je vais vous dire. Parce que les livres, il y a des livres qui arrivent comme ça, puis d'autres qui se refusent complètement. Donc, c'est vraiment, vraiment la même chose. Et puis, j'étais encore en train de naviguer il n'y a pas longtemps. Et donc, ce que j'aime bien, c'est le petit mouvement. C'est-à-dire, vous n'êtes jamais stable. Comme en amour, c'est toujours incertain.
Ça tangue.
Ouais. Et donc,
mais des fois, ça chavire.
Ça chavire.
On dessale.
Oui, ça, on dessale, ou on est dessalé. Ce qui est une bonne nouvelle en général. Et ça nous apprend des perspectives. Et puis, mais on est un peu en dehors de même. J'aime pas trop le confort, vous voyez. J'aime quand ça bouge tout le temps parce qu'on invente, on est là, on est en fragilité. J'aime bien la fragilité.
Alors, parlons de cet aventurier de la liberté, Beaumarchais, dont vous écrivez. Alors, est-ce que vous qualifieriez votre livre de biographie de Beaumarchais ou est-ce que c'est un roman autour de Beaumarchais puisque vous y mettez beaucoup de vous? Il y a beaucoup d'analogie avec notre siècle et des références même à votre vie personnelle puisque je parlais de ce pseudonyme au moment où vous expliquez comment il décide de s'appeler Beaumarchais à partir d'une terre, hein, c'est ça,
oui, terre.
Du côté de Bordeaux.
Oui, oui.
Vous expliquez-vous comment vous aviez demandé l'autorisation d'utiliser le nom d'un personnage, non, d'un village.
D'une ville, voilà. J'ai demandé à Julien Gracq, oui.
Exact. Donc il y a beaucoup de parallèles comme ça. Est-ce que c'est une bio, est-ce que c'est un roman?
C'est une promenade. C'est une promenade dans un personnage qui incarne un siècle. Donc c'est une double promenade. C'est un problème chez quelqu'un qui incarne tellement ce siècle formidable, ce siècle qui a inventé la liberté. Le 18e. C'est-à-dire avant, il y avait le poids du roi, chez nous Louis XIV. Il y avait le poids de l'Église extrêmement forte. Il y avait le poids de toutes les corporations. Il y avait le poids d'une science, d'un savoir complètement dominé par la pensée religieuse, etc., etc. Et brutalement, comme une sorte d'adolescence, il y a une sorte d'ivresse de la liberté dans tous les domaines. Et alors, ce qui est
dans tous les pays, puisqu'on parlait des États-Unis,
c'est une sorte de gigantesque. Vous étiez pas né, mais gigantesque mai 68. Brutalement dit, c'est pas possible. On a envie de tout envoyer comme ça. Et voilà. Pourquoi? Et pourquoi pas?
Beaumarchais au milieu de tout ça.
Et justement, répond à la question. C'est pas pour moi. Mais si, c'est pour moi. Le savoir est pour moi. L'entreprise est pour moi. La science est pour moi. La liberté, c'est pour moi. Vous voyez, on peut ça. Et la dame du voisin, elle peut être aussi pour moi.
Quels ont été les moteurs de Beaumarchais? Oui, il respecte pas son voisin, écoute, c'est comme ça. Quels ont été les moteurs de Beaumarchais? Est-ce que c'était la réussite, l'argent, les femmes, la reconnaissance?
Tout. Pourquoi avoir une seule motivation? C'est-à-dire, le point de départ, moi, ce qui m'intéresse bien, c'est d'essayer de trouver les lieux. Parce que moi, si j'en résume, je suis plutôt géographe, c'est-à-dire les lieux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que Beaumarchais, un siècle plus tard, naît à 200 mètres de l'endroit où naît Molière. Et donc, on a les deux grands écrivains de théâtre
qui
sont le quartier des Halles, le cœur de Paris. Et donc, dès qu'il sort de chez lui, il est au milieu du théâtre. Il est au milieu du théâtre de la vie. Avec tous les marchands, avec tous les gens qui viennent vendre, avec les puissants, les gens qui sont les mendiants, etc., etc.
Il avait des projets immobiliers formidables, puisqu'il est au cœur de l'actualité aussi, puisqu'il achète un terrain et une maison à côté de la Bastille, même que la Révolution n'explose.
Alors là, bien plus tard, parce que le mec...
Ça s'appelle avoir du nez, quand même. Je vais habiter où? À la Bastille. C'est pas la Révolution. Dans une semaine, mais je vais me mettre là, quand même.
Non, mais s'il sort sur la Bastille, c'est quand même incroyable. Il a pas mal d'argent... parce qu'il a fait des trucs, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et il entend dire, en 1787, que l'administration pense détruire la prison de la Bastille, parce que c'est mal placé. Il dit, formidable, il va y avoir une opération immobilière. Donc il achète un hectare. Une partie de la place
dans
de
Paris.
La Bastille actuelle,
ouais.
Une partie de la place de la Bastille actuelle,
Saint-Antoine.
Et l'endroit où arrive le boulevard Beaumarchais actuel. Et il fait un palais, 10 millions d'euros, genre. Et... il fait, à peine c'est fini, il fait visiter en disant, voyez, c'est moi, c'est formidable. Il y a un côté tapis chez lui, comme ça, il fait marcher, machin, etc. Et puis, les travaux, ils sont finis quand? En avril 1789. Donc évidemment, en mai 1789, tout le monde envahit son truc, le détruit, tout ça, il va le retrouver 3 ans après. C'est lui.
Il va même essayer de le vendre à Bonaparte.
Il invente des trucs, ça dégringole. Et puis après, il repart. C'est le roi du rebond.
Alors, c'est Christian Clavier en Corse.
Commençons par le commencement. Horloger, inventeur et...
D'abord, il a des sœurs. Il a plein de sœurs.
4 sœurs.
Il a 4 sœurs qui l'adorent. Il est là, il est chéri. Donc, il y a une sorte de confiance absolue en lui. Le socle de la confiance, il y a ça. Et puis des parents, moi, j'ai essayé de trouver le résumé, de dire qu'est-ce que c'était ses parents... Et il y a des moments où on s'intéresse, parce que c'est ça l'écriture, c'est de résumer. Et en résumé, ses parents grondent peu. C'est-à-dire, ils laissent la bride un peu sur le coup. Il s'agit de bosser, mais ils laissent la bride sur le coup.
Ça va même plus loin. Ils font le sacrifice aussi de leur métier pour permettre la réussite de leur fils.
Après, mais au début, c'est ça. D'accord. Et c'est un endroit où on joue de la musique tout le temps, partout. Toutes les 4 sœurs et lui, puis les parents, tout le monde fait la musique un peu à l'allemande, vous savez, ce système. Ouais. Ça. Ce qui fait que, un peu plus tard, quand il en aura marre d'être horloger, il va devenir quoi ? Maître de musique des filles du roi.
Et la harpe étant l'instrument à la mode très...
Alors, harpe, c'était formidable, vous voyez, parce que c'est
d'abord... Vous la décrivez comme un instrument sexuel, hein, la harpe.
C'est complètement.
C'est quand même compliqué à transporter une harpe, non ?
Mais c'est pas...
Oui, mais ça se caresse. Oui, mais ça caresse et ça permet des transports rares.
Ça laisse entrevoir...
parce que regardez comment... C'est vraiment... Enfin, je vous souhaite, mesdames, puisque les dames sont en majorité ici... Je vous souhaite d'être harpe.
Ou harpiste.
Non, harpe,
ah,
vous-même.
D'être joué. Ah, oui,
d'être joué. Ah, okay, vous imaginez carrément. Ce que c'est.
Voilà. Reprends encore un peu d'eau, Marina, parce que là, elle est
en PLS, là.
Elle
est en apnée.
Non, mais l'harpe, c'est d'abord parce que c'est extrêmement beau.
Vitalité, tu sais.
C'est extrêmement beau parce qu'il y a l'armature. Et l'armature, on peut très bien faire des peintures. Des sculptures, etc. C'est très beau. Et il se retrouve là. Non, mais c'est un personnage d'un culot incroyable, donc insupportable, de morgue, bien sûr. Mais il est là et il va... Imaginez qu'il est au début apprenti horloger chez son père.
Non, il crée un mécanisme. Oui, mais il explique
en étant horloger chez son apprenti.
J'entends, mais surtout c'est le point de départ de tout ça. C'est à mes yeux en tout cas, c'est qu'il a une création. Il a peur de se faire voler son invention. Il communique beaucoup et il parle et il demande des conseils. Et celui qui lui dit fais gaffe, les idées ne se protègent pas, on peut se les faire voler. Bah c'est justement celui qui va lui voler l'idée et auprès du roi ou de la cour en tout cas présenter cette invention. Et Beaumarchais, qui n'était pas Beaumarchais d'ailleurs à l'époque, va se battre et aller jusqu'au procès, au tribunal, pour revendiquer la paternité de son invention d'échappement pour réguler les montres.
Il a 18 ans. Il invente un mécanisme. Il est encore apprenti. Il invente un mécanisme, comme dit Nagui, qui s'appelle l'échappement, un mécanisme. Et il y a quelqu'un qui vient très, très important, parce que c'est le principal horloger du royaume, c'est l'horloger du roi. Il lui explique le mécanisme. Le type lui dit « Fais attention, on va te le piquer ». Et le mec qui lui dit « On va te le piquer », il lui pique le mécanisme en disant « C'est moi qui l'ai fait ».
C'est ça.
Alors, son père lui dit « Calme-toi, il est trop puissant, etc. » Pas du tout, il a 18 ans, il envoie des libelles partout en disant « C'est moi qui ai trouvé », et il gagne. À 18 ans et demi,
il prouve document à l'appui et il démontre que c'est lui qui en est l'inventeur. Alors ce qui est assez frappant, c'est que sa carrière, c'est une espèce de parenthèse aussi dans la reconnaissance, que ce soit dans cette invention de la montre au tout début ou dans la création des sociétés d'auteurs d'œuvres dramatiques, puisqu'il veut défendre le droit d'auteur à la fin de sa vie aussi, en disant, réunissant, ce qui est pas une mince affaire, en réunissant une vingtaine d'auteurs, en disant, nous devons protéger nos œuvres et devenir non pas les rentiers de notre création, mais en tout cas ceux qui en vivent le mieux, ce qui n'était pas le cas à l'époque, c'était plutôt les comédiens qui faisaient la pluie et le beau temps des œuvres de théâtre ou des opéras.
Alors, cette histoire est d'autant plus intéressante qu'il est le seul parmi les auteurs à ne pas avoir besoin d'argent, puisqu'il gagne l'argent autrement en étant financier.
Donc on le soupçonne de rien dans cette idée-là.
Donc on le soupçonne de rien du tout. Et alors il réunit les auteurs, donc c'est extrêmement compliqué de réunir les auteurs, on le sait. Donc il fait ça, et il se bat. Et pendant la Révolution, en 1791, il y a le principe du droit d'auteur qui est reconnu. Et donc, on lui doit ce principe de droit d'auteur. D'ailleurs, à Paris, à la Société des auteurs, c'est placé sous le haut patronage, vraiment, de Beaumarchais, qui a inventé les auteurs. Et s'il m'amuse toujours, m'intéresse dans une biographie, c'est que la question posée au XVIIIe siècle, exactement la question qui est posée ici, chez nous. C'est-à-dire que la manière dont se comportaient les comédiens, notamment la Comédie française, ils piquaient les textes, et puis ils donnaient de temps en temps, quand ils voulaient, un peu d'argent aux auteurs qui vivaient et mouraient pauvres. Corneille, en dépit de tous ses succès, vivait dans la misère. Donc, on se trouve dans la situation actuelle où les plateformes piquent les inventions enfin, ne payent de pas tous les créateurs de, et ne on ne paye pas, les droits d'auteur. Donc, c'est ça qui m'intéresse.
Déjà, ils ne payent pas les impôts, voyez, mais ils payent
pense,
pas les droits d'auteur.
Oui, on pense qu'on a gagné, on pense que c'est différent. En fait, c'est exactement la même chose. Donc, la bataille doit être sans arrêt menée.
C'est
ça qui m'intéresse, ouais. Vous voyez. Le 18e nous parle d'aujourd'hui.
Non seulement c'est intéressant, mais c'est passionnant. Et en effet, il y a un écho entre ce qui s'est passé au 18e et ce qui se passe aujourd'hui. Vous vous servez beaucoup de ces allers-retours, de ces parallèles. Ça s'appelle Beaumarchais, un aventurier de la liberté. On va continuer d'en parler. Évidemment, c'est publié chez Stock. Tom Villa va faire l'interview d'Éric Orsenna. Vous inquiétez pas, Éric Orsenna. Tom Villa a les questions et les réponses. Voici Tom Villa.
Comment allez-vous, Éric ? Ça va ? Bienvenue, merci d'être chez nous plutôt que dans les autres émissions de la station, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir dans la bande originale plutôt que, je sais pas, dans Boomerang, chez Augustin Trapenard ?
La culture, c'est pas pour moi.
Ah bah parfait, pas de non plus. Alors bienvenue. Hein. En tout cas, très heureux. Je sais pas si vous connaissez Nagui.
Il paraît qu'il pique des très grosses colères, j'imagine très froides, et j'imagine extrêmement méchante parce qu'il sait dire les mots.
Ah bah oui, vous le connaissez,
c'est ça.
Vous regardez, N'oubliez pas les paroles.
C'est insupportable, il se trouve.
Ouais, moi il se trouve quand même que c'est mon patron, donc mesurez vos mots quand même. Alors pourquoi vous êtes autant en colère contre Nagui ? Je sais pas, vous lui reprochez quoi ?
De pas avoir de talent musical.
Ah oui, mais ça, il le sait, Non mais en vrai, qu'est-ce que vous lui reprochez ?
Mettre des chaussures qui font mal.
Ah bah ça, je vous le fais pas dire. Alors là, vous revenez avec un nouveau livre sur Beaumarchais, vous qui avez bien travaillé sur sa vie, donc on l'a dit, il a été auteur, inventeur. Quel autre secret inavouable sur Beaumarchais vous pouvez nous confier ?
C'est un imitateur hors pair.
Ah oui, d'accord.
Je sais pas.
Imiter qui, Beaumarchais ?
Jules César, Louis XIV, Bonaparte ou Laurent Fabius.
Ah oui. Ouais, imiter Laurent Fabius et Bonaparte, d'accord. Bon, tiens, juste, il y a une rumeur qui court comme quoi l'Académie française, ça rigole beaucoup. Vous voulez pas nous raconter une petite blague d'académicien hein ?
La différence entre un livre et autre chose.
Ah, c'est une blague d'académicien. La différence entre un livre et autre chose, non, je l'ai pas, allez-y. Hein.
Le livre. Quand on a un livre, on lit le même livre. Mmh. En fait, on lit pas le même livre.
Ouais, ça va être compliqué. Alors, juste, j'en profite de vous avoir sous la main, Éric, parce que l'année dernière, vous avez fait un grand tour de France de toutes les bibliothèques. C'est pas trop chiant, une bibliothèque ? Non, enfin, ce que je veux dire, c'est quand on en a vu une, on les a toutes vues.
Les bibliothèques ne sont pas seulement les lieux de livres, contrairement à leur nom. Les bibliothèques, c'est des lieux de vie. C'est des lieux de rencontres.
C'est pas vrai, ça drague dans les bibliothèques, Éric Orsenna. Oui. Vous avez fait des rencontres sympas ?
Trois ou quatre, donc il y a toujours un taux de gentillesse très agréable.
Voilà, trois, quatre. Je sens que vous êtes très modeste. C'est quoi le vrai chiffre ?
10 000.
Ah ouais ! Ah, j'avoue ! Ah là, voilà. Je suis sûr que... Ah ouais, non, 10 000 Pardon, je vous ai coupé, pardon.
Ces chiffres, il faut les compléter par à peu près 90 000 bénévoles.
Ah ouais, alors je suis pas bon en maths, mais ça fait 100 000, c'est énorme.
Les préservatifs, j'en ai utilisé énormément.
Je me doute.
Un incroyable gâchis.
Oui, enfin bon, c'est bien de se protéger, mais comment on arrive à tel chiffre ?
Je trie pas encore assez bien.
Oui, enfin là, 100 000, c'est incroyable. C'est quoi votre secret de séduction ?
Dans notre famille, on l'a énorme.
Oui, bah garde un petit peu de mystère quand même.
Je suis souvent nu, ce qui bouleverse les populations.
Allez, j'arrête de vous poser des questions. Merci en tout cas. Et n'oubliez pas que vous aurez beau dire des choses intelligentes, et ben moi je vous ferai tout. Je vous redis n'importe quoi.
Merci, Damien. Bravo.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Donc on sent bien que le sexe est un sujet qui vous travaille et qui a travaillé Beaumarchais. Il a, et j'ai découvert un mot, guerluchonné. C'est ça ?
Oui. Guerluchonné.
Guerluchonné. C'est
alors, j'ai appris parce que moi,
faire l'amour moyennement argent.
Ça dépend de façon infidèle aussi, ça dépend, en tout cas c'est un mot magnifique, et comme mon métier d'académicien c'est de remettre sur le marché des mots complètement oubliés, j'espère que maintenant on va dire garluchonner au lieu de ce terme faire l'amour, qui est, je trouve ça, d'abord c'est super prétentieux de dire l'amour et faire. Ces deux contradictoires.
Vous ne regardez pas comme ça.
Non, mais
c'est gênant. C'est gênant.
Mais attendez, comme on disait, les regrets, faute de remords.
je croyais que Garluchonnet était forcément l'amour monnayé, Eric.
Oui, globalement, oui.
On ne peut pas le remplacer par Garluchonnet.
Non,
c'est aussi. Moi, je voyais plutôt le côté micheton.
Non, pas du tout. Non, le Garluchon, c'est de manière générale, c'est l'amant d'une femme mariée. Donc, le Garluchon, c'est l'amant d'une femme mariée.
D'accord,
un gigolo. Mais
s'il est entretenu, c'est un gigolo.
Oui, mais c'est un peu banal. Alors que l'amant d'une femme mariée, c'est plus répandu.
Non, c'est pas ça, c'est ma question.
Est-ce que
Beaumarchais se faisait entretenir
Pas du tout.
Non, en revanche, il se mariait si la partie adverse avait quelques...
Un peu de bien.
Non, parce que l'argent était son moteur. Vous dites qu'il était riche. À la fin de sa vie, il était riche, mais il n'a pas eu que des moments de tranquillité
Alors, il aimait l'argent parce qu'il aimait ce confort. Et alors, il aimait l'argent aussi pour une raison précise, c'est qu'il adorait sa famille. Et qu'il a été infidèle à des tas de choses, à des tas de gens, mais il adorait sa famille. Donc sa famille, il voulait bien l'installer et bien lui venir en aide. Donc c'est pour ça qu'il a acheté une maison incroyable, qu'on peut d'ailleurs voir, puisque c'est le siège du Mercure de France, comme ça, rue de Condé, qui est un petit hôtel magnifique où tout le monde était là, avec son père, tout ça, etc. Et ses sœurs qui n'étaient pas mariées, elles étaient là. Donc il aimait ça. Mais il aimait aussi, dans l'argent, l'entreprise. C'est-à-dire ce qui fait rentrer dans des univers particuliers. Et puis, souvent, il se plantait. Il s'est planté avec son opération immobilière de la Bastille, comme on l'a vu, mais il s'est énormément planté avec les États-Unis.
Les ventes d'armes.
Mais les États-Unis. Parce que les États-Unis, c'était incroyable. Par conviction, il était pour la liberté. Donc, il soutenait ceux qui étaient en révolte contre le colonisateur anglais. Et donc, comme la France ne voulait pas affronter la grande puissance anglaise, c'est lui qui s'était chargé de défendre, bien plus que Lafayette, les révoltés américains. Donc,
en montant une société privée pour éviter que ce soit des bateaux français ou espagnols qui soient privés. Repérés.
Ouais. Et alors lui, qui n'avait jamais vu la mer de sa vie, il est armateur de 40 bateaux qu'il envoie aux États-Unis, plein d'armes, d'uniformes, de trucs comme ça. Alors, il dit, bon, vous n'avez pas d'argent pour l'instant, les Américains, vous allez bien me payer au retour. Mais en maïs, en trucs comme ça, etc. Et puis, dès qu'ils sont indépendants, les Américains, ils disent, on a complètement oublié, bon, on avait promis quelque chose, donc il est complètement ruiné. Donc il faut savoir aujourd'hui que les États-Unis d'Amérique, et donc j'envoie un tweet dans 2 heures à Donald pour lui dire, rends le pognon à Pierre-Augustin Caron.
Très bien. Eric Orsena signe donc Beaumarchais, un aventurier de la liberté chez Stock. Voici Marie.
Bonjour les amis, je suis ravie d'être revenue. Tout le monde a l'air bien reposé, heureux. Même le studio a l'air toujours très rouge. Moi cet été, j'ai pris l'avion, je sais c'est mal, mais donc j'ai voulu recycler ce geste polluant en tirant une chronique parce que je me suis rendu compte, en déambulant devant les boutiques de luxe de l'aéroport, que bon, déjà pourquoi il y a des boutiques de luxe à l'aéroport ? Qui part rendre visite à sa tante et se promène avant le vol en se disant qu'est-ce que je pourrais lui amener qui lui ferait plaisir, peut-être une boule à neige ou une Malle Vuitton, voilà, un des deux. Mais bref, en déambulant comme ça parmi les enseignes de luxe, je me suis rendu compte que globalement, toutes les nanas qu'on voit sur des pubs pour des sacs à 5000 euros, elles ont l'air d'avoir 16 ans. Alors je sais pas si j'ai loupé des très beaux filons de babysitting, mais on est d'accord que c'est compliqué de se payer un sac Chanel avec ses économies à 17 ans, non ? Alors on pourrait se dire, évidemment c'est pas réaliste, c'est des pubs. Oui mais c'est pas anodin les pubs. Les gens qu'on voit en affiche toute l'année, on a beau être maligne, inconsciemment on veut leur ressembler, c'est prescriptif. La pub c'est une manière de nous dire voilà comment il faut vivre. Moi personnellement je le ressens dans plein de petits gestes du quotidien. Moi parfois quand je range mon linge propre, bah, j'ai envie de presser mon nez dans mes serviettes de bain. Comme dans les pubs, tu sais, la dame sur son îlot de cuisine qui sniffe son linge comme ça, elle a l'air tellement heureuse. Moi, si j'ai envie de sniffer mon linge ou de me frotter dans un pull en laine comme ça parce que je l'ai lavé avec une lessive très douce et de regarder mes enfants jouer par la fenêtre alors que j'habite au 5e et j'ai pas d'enfants mais j'ai envie de faire comme dans la pub. La pub crée une réalité dans laquelle que tu le veuilles ou non, tu te projettes. Et donc la question c'est dans les pubs de marques de luxe, c'est quoi la vie qu'on te décrit ? Cette jeune femme à peine majeure qui a 20 000 euros de fringues sur elle. Quelle est son histoire ? On est curieux. Alors la première solution c'est son...
Elle
Garluchonne. Ben, voilà, c'est ça. La première solution c'est ça, c'est son mec ou ses parents qui lui ont offert. Donc c'est pas une pub pub pour un sac, c'est une pub qui te dit c'est quand même vachement cool de se faire entretenir. Certes, mais on savait déjà, non ? Enfin, quitte à enfoncer des portes ouvertes, pourquoi le faire de manière subtile ? C'est trop fin l'affiche. Pourquoi on met pas directement des vendeuses devant les boutiques de luxe qui, quand tu passes devant, te jetteraient des épluchures dessus en disant stop being poor. Mais... et puis quitte à admettre qu'elle peut pas se payer seule et que c'est un cadeau, on devrait inclure les gens qui vont l'acheter sur l'affiche. Il y a la fille avec le sac et à côté il y a le fiancé pété de thunes et le slogan dessous c'est si vous voulez une partenaire sexuelle régulière et un faire-valoir en société mais que vous n'êtes pas prêt en contrepartie à donner du temps, de l'attention et de l'affection, Dior. Bon, après ça fait des grandes affiches quoi.
C'est original.
C'est génial.
C'est génial. On s'arrête pour la lire en tout cas. Ouais.
Bref, le premier récit possible derrière ces pubs c'est que la jeune fille en photo elle se l'est pas payée seule son sac. Le deuxième récit possible c'est qu'elle a pas 16 ans même si elle a l'air d'avoir 16 ans. Et donc en substance ce qu'on nous dit c'est que ce qui va bien avec ce sac c'est une jeune fille de 16 ans. Donc si tu veux ce sac tu devrais avoir l'air d'avoir 16 ans même si t'as pas 16 ans. Donc tout à coup tu comprends le prix du sac puisque ce n'est plus un sac, c'est une machine à voyager dans le temps. C'est une DeLorean en cuir grainé, c'est merveilleux. Alors on pourrait se dire c'est le problème de la société de consommation en général, mais la forme elle est quand même beaucoup plus violente dans les produits qui s'adressent aux femmes. Parce que sur les pubs pour des montres de luxe pour hommes ou des bagnoles à 400 000 euros, jamais c'est un minet de 18 ans qui fait une pose déglinguée, on dirait que c'est foulé une cheville comme ça avec les yeux vides, tu te demandes s'il s'est compté jusqu'à 10, tu vois. Non, toujours non, c'est un gars.
Il a des abdos.
Il a des abdos, mais il a 45 ans, il a les cheveux de riche comme ça, un peu crantés, c'est la cible, quoi. Alors idéalement, évidemment, un jour, le capitalisme tombera, on sera dans une civilisation qui aura dépassé la notion de possession matérielle, tout le monde vivra en harmonie, en s'échangeant des topinambours contre des paniers tissés, ce sera très beau. Mais entre-temps, s'il vous plaît, quitte à faire des affiches pour des sacs trop chers, montrez-moi une PDG de 48 ans, montrez-moi une médecin qui a fait 15 ans d'études, montrez-moi une vieille tirée qui a survécu à 3 maris. Des gens qui ont mérité le sac. Arrêtez de nous vendre des produits pour petites filles millionnaires. Et d'ici là, si quelqu'un veut m'offrir un sac, moi je prendrai un Céline, s'il vous plaît.
La bande originale. Et ce qui est génial, c'est qu'on retrouve Marina Rollman le mardi et le mercredi, c'est au Théâtre de l'Œuvre.
Oui, absolument, oui. on se réjouit.
C'est vrai que c'est génial.
France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Vous êtes bien dans la bande originale, vous serez encore mieux après Sur ma vie de Némir et Alpha One.
Fini le 8-6, fini la fumette, c'est fini les bêtises, les clubs de striptease, les femelles à lunettes, la migraine au réveil, j'ai la coupe d'un Bee Gees, une haleine de fenêtre, chez moi ça sent la vieille, ça fait au moins 10 piges que j'ouvre plus les fenêtres, je prends la vie comme un jeu.
C'était Sur ma vie dans la bande originale d'Eric Orsenna pour son livre Beau marché, un aventurier de la liberté.
France Inter, Nagui, la bande originale.
La bande originale d'Eric Orsenna, alors déjà, elle est très musicale. Votre histoire de Beaumarchais, il y a beaucoup de musique, évidemment. Il y a des compositeurs, il y a du Mozart, du Salieri.
On va du Zouk et
on va en parler tout à l'heure, mais la musique était présente dans votre vie, et pas uniquement quand vous êtes mis au piano il y a quelques semaines. En 74, vous écoutiez par exemple Claude François. Ça vous renvoie à quelles images, cette chanson ?
Alors, mais comment tu connais l'hôtel de la plage, toi ?
Toi aussi, tu viens à Mandelieu ?
Oui.
C'est la petite fille,
pourquoi,
en fait.
Et pourquoi maman ?
C'est très gênant ce qui se passe, là. C'est très, très gênant.
Non, moi, je suis fou de ça, parce que je suis fou de chansons. C'est-à-dire, comme vous venez de le montrer avec une chronique de 3 minutes, on est en plein dans le portrait de notre société. Et là, une chanson, 3 minutes, c'est un roman. Et là, on a tout. On a la petite fille, tout ça, c'est un... Alors regardez, écoutez-la, là. Écoutez-la.
Y a tais-toi, sympathie.
Et ben voilà, c'est ça, et je pleure à chaque fois.
Alors, à propos du téléphone pleure et de dire je pleure à chaque fois, quand on vous a demandé quelle musique vous vouliez en 74, vous avez dit la chanson de Claude François, Le téléphone sonne, qui est l'émission de France Inter. Hein, ça n'a rien à voir avec le téléphone pleure.
Non, mais je suis toujours, moi, j'ai
vous un êtes lien... très corporate.
Je suis assez corporate. et voilà. Et le souvenir n'empêche pas l'habileté.
Et 74, Eric Orsenna, c'est un peu la théorie du en même temps. Vous publiez votre premier roman. Et vous devenez docteur d'État en même temps.
Oui.
En même temps. Et ce premier roman publié, c'est pas le premier roman écrit. Vous en aviez écrit, je crois, plus d'une dizaine avant.
Oui.
Et vous rencontrez un éditeur.
Oui.
C'est votre 13e roman qui devient le premier publié, c'est ça?
Oui, c'est ça, parce que j'écrivais tout le temps, et puis, donc j'écrivais, et puis à la fin de l'été, je relisais, et c'était nul, donc je jetais. J'ai montré le 12e. Qui s'appelait Central Park, et heureusement il a été refusé. et le 13e, je reçois, à l'époque il y avait des pneumatiques, et c'était Jean Cayrol qui était
le patron
littéraire du Seuil, et qui me fait venir. Alors j'avais dit à tout le monde, alors j'avais toujours caché que j'écrivais, j'avais dit à tout le monde que ça y est, j'étais accepté parce qu'un pneumatique, et il m'a dit j'espère que vous vous rendez compte que c'est très mauvais. Donc syncope, le SAMU de l'époque, etc., mais quasiment. Et puis, je retravaille. Et enfin, il est publié. Et donc, et le 17e a eu le Goncourt. Donc,
Et qu'est-ce qui fait, pardon, qu'on ne ferme pas son stylo au bout du 5e, 6e, 7e, 8e manuscrit refusé ou le message d'un éditeur du Seuil? Qu'est-ce qui fait que vous êtes sûr de votre passion et de votre
plume? Parce que je ne peux pas faire autrement. Si vous voulez, si j'ai pas, j'écris tôt le matin, donc c'est la continuité de la nuit. Et si j'ai pas ce rassemblement, vous savez, c'est une sorte de recueillement. C'est pas une prière tout à fait laïque, mais vous vous recueillez. Vous savez, c'est comme la religion. Religion, l'origine, c'est recueillir et relier. Donc, si vous avez pas un mécanisme dans lequel vous vous reliez et vous recueillez un peu les éléments du monde, moi je deviens fou parce que j'ai trop d'envie, d'idées dans toutes sortes. Donc il y a une heure ou deux heures tous les matins. Alors, si c'est pas publié, c'est pas grave. Et moi, il y a des tas de textes que je fais qui sont absolument nuls et que je jette. Et puis de temps en temps, il y en a un qui...
Qui vous dit que c'est nul?
Moi. Et c'est ça.
Pourquoi vous l'avez écrit alors?
C'est parce qu'il fallait que ça sorte, le nul. Et puis petit, on voit là. Mais quand vous connaissez bien, évidemment, les musiciens, ils disent, pourquoi est-ce qu'on s'arrête de refaire une mélodie? Pourquoi est-ce qu'on arrête un arrangement? Parce qu'il y a des moments, c'est trop, ça devient trop. Mais à d'autres moments, c'est pas assez. Donc, il y a à la fois une exigence, et puis à un moment donné, il y a une sorte de confiance. Et puis, vous savez, c'était merveilleux. J'étais ami de Michel Legrand. Et alors, Michel Legrand, on le voyait, et il était sur son piano, et il avait une liberté complète comme ça. Et après, puisque ça fait plus de 60 ans que j'écris tous les jours, il y a des moments de liberté comme ça. Et ça, il y a un délice, mais la liberté, ça suffit pas. Donc, on se dit, on va un peu continuer. Et celui qui est, entre mille guillemets, un artiste, c'est celui qui arrête la sculpture, à un moment donné. Comprenez, qui dit que voilà, ça suffit. Et il va pas remettre une couleur, à un moment donné, ça s'arrête. Donc c'est assez mystérieux, mais je peux pas faire autrement. Je ne pourrais pas faire qu'écrire. Mais si j'écris pas, moi je suis complètement explosé.
Et est-ce que la source parfois peut se tarir?
Non, parce qu'il y a autre chose. Il y a sans arrêt j'ai cette chance d'avoir des écritures complètement différentes. Il peut y avoir des contes, comme j'ai fait sur la grammaire, qui sont complètement différents. Il y a des sortes de promenades dans la biographie. J'ai fini un gros roman d'amour qui sort chez Gallimard au mois de janvier. Il peut y avoir des essais. En ce moment, je fais une enquête mondiale sur le cochon. Donc, comme il y a 1 milliard de cochons qui sont élevés chaque année dans le monde, la source, elle n'est pas tarie. Elle est un peu puante de temps en temps, mais elle n'est pas tarie.
Non, le cochon est très propre.
Non, mais il est propre. Mais comme on le traite mal.
Ah oui.
Comprenez, c'est ça l'affaire.
Il n'y a jamais eu de moment de lassitude, de fatigue, d'incapacité à écrire, parce qu'écrire tous les matins comme ça.
Non,
après, la production, elle est de la qualité que oui. Vous estimez plus ou moins bonne, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit, tiens, je suis vidé?
Non. Non, parce que si vous voulez, je ne sais pas qui je suis. Pour dire je suis vidé, il faudrait que je m'intéresse à moi.
Mmh.
Et moi, je ne m'intéresse pas du tout. Moi, je suis rempli par les autres. Je ne suis rien que les autres.
Et comment on sent un bon sujet, alors, quand on est...
Parce que...
C'est quoi votre intuition, à vous, là-dessus?
L'intuition, c'est la sorte de concentration d'un personnage et d'un lieu.
C'est pour ça que, au fond, l'envie...
La matière, en fait.
Oui, mais ouais. Le moment... voilà. C'est-à-dire, dès que j'ai su que Beaumarchais, il y avait quatre sœurs et c'était au cœur de Paris, et que c'était tout près de chez Molière, j'ai dit, oh, là...
Ça sent bon, ça sent
là,
bon.
Y a un
c'est
truc,
marrant, c'est marrant que le lieu est autant... Disons,
géographie.
Ouais, c'est un géographe.
Le lieu est autant important, ouais, c'est ça. En 1988, vous écoutiez... C'est la Garluchonne aussi, hein. Étienne Gashpati.
Ouais, c'était. Alors, c'est, elle est formidable.
Parce très
qu'elle,
sexy.
Elle est danseuse.
Ouais.
Elle est danseuse, donc c'est.
Danseuse,
c'est,
chorégraphe.
Et puis, danseuse,
ouais.
Chorégraphe, et on sent vraiment ce rythme-là. Et puis, je connais un type qui s'appelait Étienne. Il n'avait jamais rien emballé de sa vie. Et après, ça a été hallucinant. Donc, moi, c'est un salut à Étienne, quoi.
On est en 88, Eric, et vous recevez le prix Goncourt pour l'exposition coloniale. Vous avez mis 8 ans. À écrire ce livre. Je crois que c'est quoi, le cinquième publié ?
Oui, oui, c'était le quatrième publié. Et j'ai un souvenir triste, puisque c'était mon éditeur Jean-Marc Commerce. J'avais mis 7 ans, et donc il n'avait rien vu, et je lui remets un gros manuscrit. Et il m'appelle 2 jours après, en me disant, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors je lui dis, tu commences par la mauvaise. Il dit, c'est comme la bonne, silence, tu peux faire mieux. Donc, week-end moyen, wow. Et j'ai tout réécrit. Tout réécrit. Et donc, mais moi, j'aime bien l'obstination, vous voyez, parce que c'est le côté aussi marin.
Non, pardon,
marin,
tu peux faire mieux. D'abord, tout le monde peut se le dire pour tous les métiers du monde et pour tous les arts possibles et imaginables. Quelle est la définition du mieux ? C'est-à-dire quoi, tu peux faire mieux ?
Il sent bien, on sent qu'on y sent. Et ça, c'est l'éditeur. Moi, je n'ai pas besoin d'un imprimeur. J'ai besoin de quelqu'un qui... et suffisamment d'intelligence et de générosité
dans le lecteur, alors.
Pour s'oublier lui-même, pour voir quel est mon projet et pour m'aider à aller au bout du projet. Je me souviens d'un truc avec Eric Nolot, On n'est pas couché. Alors il dit, votre livre est raté. Alors je dis, pourquoi il est raté ? Parce qu'on aurait pu faire un autre livre. C'est pour ça qu'Eric Nolot est notamment un très mauvais éditeur. C'est qu'il demande des autres des livres que lui n'est pas capable de faire. Jean-Marc, il faisait ses livres et en même temps, il était à la disposition en disant « Tu n'as pas été au bout. »
Ça veut dire qu'il vous donnait des indications un peu plus précises.
Non, mais il disait « Là, c'est comme ça, tu n'as pas osé, pourquoi tu n'as pas raconté, ça c'est bavard, ça c'est comme ça. » Mais de manière générale, et c'est ça ce que j'attends.
Et c'est-à-dire, qui fait ça aujourd'hui pour vous ?
Un éditeur, mais même maintenant. Je veux dire, j'ai fait 60 livres. Et un éditeur, c'est vraiment quelqu'un qui me dit « Là !» Et puis là, avec Beaumarchais, Alice Dandigné, on a été, elle m'a dit « Là, mais regarde, t'as pas peut-être donné assez, justement, à la géographie du quartier. Pourquoi ?» Parce qu'elle est extraordinaire, elle a été éditrice de Houellebecq, elle sait comment ça se passe. Donc, c'est juste une indication. Ils écrivent pas du tout à notre place. Simplement, ils disent « Est-ce que t'as été un plus loin, comme on voit des gens, c'est ça l'amitié aussi.
Mais justement, si vous avez confiance en certains éditeurs, pourquoi est-ce que vous ne leur présentez pas ce que vous n'osez pas présenter d'habitude ? Peut-être qu'ils pourraient trouver l'angle qui pourrait vous intéresser et là vous dire, vous donner l'idée de faire ah oui, celui-là, je vais pouvoir l'approfondir dans cette direction et le présenter
à publier. Ben, c'est ce
que je fais. Ouais, c'est ce que vous ne présentez pas du tout ?
Je présente tout.
Ah, maintenant vous présentez tout ?
Non, mais je présente des projets, on parle de projets et puis on dit, tiens, le ton comme la musique. C'est-à-dire, je leur donne. Une page ou 10 pages en ce moment, par exemple.
Un synopsis, quoi. C'est oui, une note d'intention.
Oui, mais l'art, c'est pas des idées. C'est pour ça que j'ai du mal avec l'art moderne, les installations. C'est-à-dire, pour moi, l'art, c'est pas du concept. C'est la réalisation d'idées. Une idée, c'est rien. Tout le monde a des idées. Mais c'est le ton. Et l'écriture, c'est le ton. J'ai été 10 ans, j'étais 5 ans éditeur, et c'est le ton. On voit le brutalement. Vous voyez, c'était les premières phrases qu'on peut imaginer, les grandes premières phrases. Brutalement, on voit le ton. Donc, ils me disent, tiens, ce ton, oui, pourquoi pas. Et puis, après, on vient. Et alors, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est que on peut ne pas réussir à un moment donné. Et puis, 10 ans après, on revient. C'est-à-dire, le livre qui a eu le Goncourt, j'avais commencé. Et puis, c'était pas bon. Et j'ai fait deux autres livres, et puis j'y suis revenu. Mmh. C'est-à-dire, c'est comme le parcours des eaux, vous savez, la résurgence, comme ça, ça disparaît dans des grands parcours.
Et ça crée, sous le, et ça crée du courant
le,
et de la forêt.
Calcaire, mmh. Et hop, ça revient, et c'est le moment. Comme en amour, il y a des moments où on rate des rendez-vous, parce que c'est pas le moment, ni pour l'un, ni pour l'autre. Et puis ça revient.
Et bien là, figurez-vous.
Moi, j'en ai enterré des rendez-vous, j'attends qu'ils ressortent à la surface. Là,
mais je suis très optimiste, monsieur Daniel.
Non, c'est gentil, figurez-vous que c'est le moment oui, d'Anne-Marie.
Oui. D'ailleurs, il y a une Marie-Martine qui me dit qu'elle espère bien vous voir demain.
Voilà. Ah, très bien, bah, écoutez.
La fameuse.
On ira ensemble.
Anne-Marie, bonjour. Anne-Marie Vaillant, merci de venir à ce micro. Vous êtes présidente du groupe régional Île-de-France de l'Association des bibliothécaires de France et directrice adjointe de la bibliothèque André Malraux à Paris. Combien de bibliothèques d'ailleurs, y a-t-il en France publique ?
Il y a environ 7700 bibliothèques. Avec des... Le chiffre peut être étendu à 16 000 pour les points lecture. Et on ne compte pas les bibliothèques universitaires.
À partir de combien d'ouvrages on peut appeler ça une bibliothèque ? Parce que c'est, ça commence à deux livres, une bibliothèque, voilà. C'est vrai ? Vraiment ?
La bibliothèque, ouais. C'est pas seulement des ouvrages, hein, c'est des services... C'est de la musique, c'est du prêt d'instruments de musique. C'est quelque chose qui s'est beaucoup, beaucoup étendu. Je pense que M. Orsena pourrait être d'accord avec moi. On a beaucoup de services numériques. Voilà. Donc une bibliothèque, ça peut effectivement commencer à deux ouvrages. Ça peut commencer à 20 mètres carrés. Ça peut aller jusqu'à 3000 mètres carrés, 15 000.
Enfin, est-ce que, alors, puisque vous parlez du numérique, est-ce que le numérique ne tue pas les bibliothèques ? Est-ce qu'on se dit finalement, si je veux un livre, bah, je peux aller le louer ou le télécharger en PDF sur ma tablette et je suis pas obligé d'aller remplir une fiche à la bibliothèque et
Alors, on remplit plus de fiches.
Ouais, on a une carte.
Bon, allez,
non, mais en même temps, je trouve que c'est dommage. Moi, j'adorais remplir les fiches et j'adorais surtout emprunter des livres et savoir qui l'a emprunté
avec
avant
le petit tampon.
Avec le petit tampon. Mais maintenant, en effet, c'est des cartes. Voilà.
Voilà, il y a des cartes. Le numérique en bibliothèque, c'est pas seulement du numérique écrit.
C'est un ennemi ou c'est un ami, le numérique pour la bibliothèque ?
C'est un média. C'est le média d'une information et l'information, ce sont les bibliothécaires qui l'accompagnent.
Et le rôle du bibliothécaire, c'est d'être prescripteur aussi, de conseiller, de dire vous devriez lire tel ou tel ouvrage si vous avez aimé tel auteur, ou c'est vous recherchez telle information, voilà ce que je vous conseille.
Oui, l'accompagnement, la prescription non, l'accompagnement oui.
La différence, pardon ?
La différence, c'est qu'il n'y a pas on n'impose pas un choix. On cherche à accompagner la personne qui est en face de nous dans ses propres choix.
Je ne voulais pas la prescription comme étant une figure imposée, mais si c'est
alors,
le cas, pardon.
Peut-être que c'est mais je vais regarder une vision du métier.
Vous savez quoi, je vais me plonger en dictionnaire pour regarder.
Vous avez pas, parce que Nagui, la tolérance, c'est un truc qu'il connaît bien. Je suis très étonné.
Quel est le souci majeur des bibliothèques ? C'est le financement, ce sont les horaires d'ouverture, c'est l'honnêteté de celui qui emprunte de rapporter le livre, c'est le respect de ce qui s'y trouve. Quel est votre combat aujourd'hui ?
Alors, le souci majeur des bibliothèques, c'est de pouvoir ouvrir plus.
Est-ce que justement l'intervention d'Éric Orsena, qui a été désigné comme ambassadeur par la ministre de la Culture, c'était Françoise Nyssen, est-ce que ça a apporté un peu de souffle aux bibliothèques françaises ?
Alors non seulement ça a apporté du souffle, mais ça a apporté de la visibilité, ouais. Ce dont on avait vraiment beaucoup besoin, merci. Parce que l'état des bibliothèques actuellement, c'est un état très très différent selon le territoire. Il y a beaucoup de bibliothèques très différentes, il y a beaucoup d'offres très différentes. On peut avoir des bibliothèques qui sont gérées par des bénévoles avec l'aide des bibliothèques départementales, et on peut avoir des énormes bibliothèques métropolitaines, ouais. Avec des réseaux très très importants et très très bien défendus. Et bah, c'est l'avantage de la mise en lumière et du rapport Orsena, c'est d'avoir, et voilà. Noël Corbin, c'est d'avoir mis tout ça au milieu.
On a voulu vous
question.
Inviter justement parce que, Éric Orsena, vous êtes ambassadeur de la lecture, hein, c'est un titre.
Moi, ce que j'ai découvert, c'est des lieux, donc 16 000, c'est le réseau de présence culturelle le plus important, juste après les cinémas. C'est des lieux où on se parle, c'est des lieux où toutes les générations sont réunies, ce qui est rare. C'est des lieux où il n'y a pas de hiérarchie entre les livres, les jeux, les choses comme ça, etc. Et c'est les lieux où on combat la maladie la plus terrible des sociétés, c'est pas pour moi. C'est-à-dire, le livre, c'est pas pour moi. La danse classique, c'est pas pour moi. La bataille pour la culture, c'est justement dire ça. Le c'est pas pour moi, mais si c'est pour vous. C'est pour chacun de nous.
Merci Anne-Marie Vaillant d'être venue à ce micro. Tanguy Passureau, bonjour Tanguy.
Bonjour
Nagui. Les scientifiques australiens, vous me dites, ont fait une découverte surprenante.
Oui, ils ont observé un cadavre se décomposer par le Parti Socialiste, un vrai cadavre, hein, pendant 17 mois. Et surprise, ils ont constaté que le corps, après la mort, cet instant atroce qui signifie qu'on ne verra pas la fin de plus belle la vie, continuait de bouger. Certains cadavres font même de la Zumba sur les 4 scènes avec Anne Hidalgo.
Non, si. Bon ok, on en parle après les infos de midi. C'est reparti pour une demi-heure et cette bande originale avec toute l'équipe et notre invité du jour, Eric Orsenna, pour son superbe hommage à Beaumarchais, un aventurier de la liberté. Oui, il y a le mariage de Figaro, oui, il y a le barbier de Séville et surtout Beaumarchais au milieu de tout ça, qui était un homme qui cherchait d'abord les affaires, qui cherchait aussi l'amour ou en tout cas la séduction, qui cherchait la reconnaissance de ses pairs ou même des autorités, quel que soit le roi, quel que soit l'âge du roi aussi, parce qu'il s'attachait aussi à un roi et quand un roi meurt et qu'un autre arrive beaucoup trop jeune, tous ces liens, toutes ces connexions, tous ces pistons entre guillemets, s'écroule. Pourquoi il a voulu devenir auteur, Beaumarchais ? Parce que justement, vous rappeliez tout à l'heure que c'était pas le métier qui rapportait le plus.
Non, mais il voulait. Il était passionné par l'humanité. Encore une fois, je mets ça sur le compte de l'endroit où il est né, parce qu'il est au cœur de cette fourmilière. Il faut savoir que Paris à l'époque c'est la ville la plus importante d'Europe. Et qu'il y a tout un monde qui grouille là. Et il est fasciné par ce monde-là. Donc il veut raconter ça. Il y a une sorte de gaieté comme ça qui le prend. Et très vite, il raconte des scénettes.
Oui, mais qu'il va rater, qui ne seront pas bonnes.
C'est pas bon du tout.
Voilà.
Mais alors, c'est pas bon du tout. Et là, c'est l'ode au retravail dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a un culot total. Il a fait des pièces nulles. Mais il a dit, vous allez voir. Celle que je prépare, elle est incroyable. Donc,
c'est un bon vendeur, quoi.
Ouais, bah, un bon vendeur, incroyable. Donc, il est à 19h, un jeudi, devant tout Paris, à la Comédie Française, à l'endroit où il y a l'Odéon, et le rideau se lève sur le barbier de Séville. Au bout de 5 minutes, tout le monde baille. Au bout d'un quart d'heure, tout le monde siffle. Et le rideau se ferme, les critiques déferlent, en disant, s'il y a une chose sûre, jamais ce Beaumarchais ne fera une pièce seulement correcte. Il dit très bien, il s'enferme chez lui et il va tout réécrire en 2 jours. Tout réécrire. Alors imaginez les comédiens qui disent « mais il paraît que vous changez tout ». Oui, je change tout. Et comme on peut savoir, ça ne fait rien. Et puis à 17h, il se retrouve dans le même endroit, à l'Odéon. Le rideau s'ouvre et c'est triomphe du début jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment le retravail, c'est-à-dire à la fois il a un culot dément, mais quand le réel lui dit c'est pas bon, il admet le réel.
Et il s'obstine.
Il en tient. Ouais. Il s'obstine, mais en même temps il admet, c'est-à-dire je suis pas le meilleur.
Oh bah quand même, il a choisi son pseudonyme Beaumarchais parce qu'il y avait beau dedans et qu'en effet il se trouvait beau. Et
oui,
parce
que c'est factuel.
Oui, mais il y a des gens
tout
qui
est relatif.
S'auto-proclament beau et s'auto-proclament géniaux, mais qui ne travaillent pas. C'est-à-dire, lui, il écoute le réel.
Ouais, c'est ça.
Et quand ça ne marche pas, il change. Donc, il est immensément orgueilleux et il garde son humilité face au réel. C'est ça qui est formidable.
C'est différent avec Daniel Morin, en fait.
C'est ça.
C'est ça. Voici Tanguy Passureau.
Gratuit. Salut.
Tanguy, dans La joie et la bonne humeur, voulait nous parler de la mort.
Oui, j'ai conscience que je plombe l'ambiance, tel l'Allemand qui en août déboule sur une plage nudiste en doudoune 3/4. Mais à 45 ans, il est temps que j'assume ce que je suis, un homme aussi peu fait pour le bonheur qu'Alain Souchon pour les fringues couples. Je suis ce garçon qui, dans les booms, quand tout le monde chantait Bamos à la Playa, demandait au DJ de passer Regret, le duo Mylène Farmer, Jean-Louis Murat. Je suis ce jeune qui a aimé Kurt Cobain de Nirvana, sans savoir que 25 ans plus tard, la vie mettrait sur mon chemin Daniel Morin, qui a le même look. Je suis cet adulte qui, à Clairefontaine, s'est moyennement éclaté parce que que les soirs de finale de Coupe du Monde, je regarde l'épisode des Racines et des Ailes, intitulé Terre et Mer, les deux visages des Charentes, juste pour les yeux de Carole Gessler, qui sont aussi bleus que le cul d'un dauphin. Alors, je vois bien que mes collègues humoristes sont joyeux, Guillermo Guise par exemple, et Guilleret, on le serait à moins, si j'avais son âge, son succès et son corps, je ferais jouir la moitié de l'Île-de-France. Ce qu'il fait d'ailleurs, si j'en crois les vidéos, qui tournent sur Snapchat. Mais je ne suis que pastureau, un self neurasthénique comme tant d'autres, et donc je parle de la mort. Alors tout d'abord, pour les gens qui nous écouteraient de leur vivant, qu'est-ce que la mort ? Eh bien, c'est cette étape ultime où, alors que ses proches sont réunis autour du mourant, celui-ci pousse un dernier soupir. D'où l'importance d'avoir l'haleine fraîche, si on veut laisser un bon souvenir. Hein, évitez le café-club parce que votre famille va vous retirer les fils pour que vous partiez plus vite. Ensuite, bah, y a soit rien pour les athées, soit le paradis pour les croyants qui ont été sages. Là-haut, vous retrouvez Ariane du Club Dorothée, Corbier du Club Dorothée et Honoré de Balzac, à qui vous dites « je te connais pas, toi t'étais sur la 2 ». Soit l'enfer pour les croyants qui ont été méchants. Alors l'enfer, c'est un poil plus frais que la Terre post-réchauffement climatique. Un espace clos où passe en boucle l'interview de François Bayrou par Jean-Pierre Elkabbach sur Public Sénat, où les deux s'étaient endormis. Mais ça, c'est pour notre âme, qui est légère, hein, contrairement à nos corps, rendus lourds par l'offre 4 croissants achetés le 5e gratuit de la brioche dorée. Nos corps, eux, se décomposent, plus ou moins lentement, puisque ce sont les vers qui les bouffent. Et autant vous leur servez José Bové à sa mort. Ils le mangent volontiers, parce que c'est le seul homme à être labellisé bio, les autres, ce sont des vaches. Hein. Autant pour un ver mangé, par exemple, Meg Ryan, ça revient pour nous à attaquer le plateau repas en plastique de la cantoche, parce qu'on n'a plus de blé pour se payer les lasagnes. Oh. Bref, nos corps se décomposent à notre mort. Sauf Michel Houellebecq, qui a débuté sa décomposition alors qu'il est en vie. Hein. Et là, des scientifiques australiens se sont dit, tiens, observons un cadavre pendant 17 mois, histoire de voir ce qui se passe. Hein, ce sont des gens qui n'avaient jusqu'à présent aucun hobby. Et ils ont réalisé, aussi stupéfait qu'Elie Semoun si David Douillet lui proposait un combat dans l'octogone, que le corps, un an après la mort, Nagui, continue de bouger.
Ok, mais ça change quoi tout ça ?
Mais tout, Nagui, aux gens sains, par exemple, qui me conseillent de me mettre au sport, je peux répondre, que dalle les losers, je bougerai quand je serai mort, et je reste glandé dans mon sofa. Ben, ces scientifiques, rendez-vous compte, ont constaté que les bras d'un mort peuvent se lever puis se rabaisser. Certains se sont mis à voler. Hein, la tête qu'ont fait les pigeons quand ils ont vu que Papy René, lui aussi, pouvait faire ses besoins sur les passants à 30 mètres de haut, au niveau de l'ego de Ségolène Royal. C'est là que je dis qu'on a inhumé Michael Jackson un peu tôt. Techniquement, il pouvait la faire, la tournée This Is It. Alors, à quoi sont dus ces mouvements du corps ? Eh bien, d'après l'équipe, aux ligaments qui sèchent, donc ça bouge. Regardez Régine, les dernières années où elle gérait sa boîte, elle faisait de la breakdance. Hasard, non, c'est juste qu'elle commençait à sécher. En plus, les chercheurs australiens disent qu'il faut ajouter la présence d'insectes dans le corps, parce qu'à terme, on devient une sorte de compost. Hein. Je vais peut-être l'avoir, mon prime de silence, ça pousse. Plus les gaz, parce qu'il en reste, alors qu'on en relâche déjà le jour de sa mort. Une existence entière placée sous le signe de la dignité pour finir comme ça, autant vivre comme Patrick Sébastien. Bref, tout ça fait que les cadavres remuent. Alors en vérité, bah, c'est surtout pour les scènes de crime hein, que la découverte sera utile, parce que jusqu'à présent, bon, on trouvait un Maccabée, on traçait à la craie autour de lui, sans penser à la femme de ménage qui derrière doit nettoyer le parquet, c'est du mépris de classe. Donc on avait un mort, mettons, à côté d'un lecteur CD contenant un album de Zaz, les enquêteurs disaient « Ok, le cœur n'a pas tenu, logique. » Mais si on prend en compte le fait que ses bras sont venus se coller à son corps après la mort, on se dit que si ça se trouve, il grouvait les bras en l'air, et que c'est au moment où par erreur il a mis France Musique qui passait du Brahms, contraste trop aigu, qui l'a clamsé. Hein, mais ça va tout changer, le corps de Ben Laden que les Américains ont jeté à l'eau. On a de la chance qu'après sa mort, il soit pas mis à nager, parce que si bien on le retrouvait à l'île d'Oléron, bah ça vous cache les vacances. Hein, on paye pas 3000 euros les 15 jours pour que les gosses jouent avec un islamiste décédé. Déjà quand ils tripotent des méduses mortes, on trouve pas ça top. Bref, à tous ceux qui, comme moi en soirée, ne dansent pas parce qu'ils ont le sens du rythme d'une agence de la Matmut, dites-vous ceci, là vous êtes nuls. Mais après votre mort, vous serez peut-être le roi de la piste.
Ça va grouver.
Merci pour l'invitation.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
La bande originale d'Eric Orsenna, ça continue après Haïm et Summer Girl.
Hard to reach. Your smile's turned into crying. It's the same release. And you always know. And you always know. I'm your summer girl. I'm your summer girl. I'm your summer girl. I'm your summer girl.
falling from the sky down to me. I see it in your face, I'm relieved. I'm your summer girl, I'm your summer girl.
C'était Aline dans la bande originale avec Summer Girl.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Bon marché, un aventurier de la liberté, un aventurier qui a vécu avec son époque au milieu aussi de toutes ces lumières qui étaient Voltaire, Mozart, dont vous parlez beaucoup, n'est-ce pas, Léla ?
Et moi, je découvre justement le travail qu'il a mené autour de l'œuvre de Voltaire. Et ça, c'est une découverte dans votre bouquin, Eric Orsenna.
Oui, c'est qu'il a décidé d'être éditeur, alors qu'il n'avait jamais été éditeur. Et éditer les œuvres de Voltaire était interdite en France, parce qu'on était puni d'excommunication, étant donné tout ce qu'il avait raconté. Donc, il trouve un imprimeur, il trouve des petits éléments de typographie, il va trouver un fort qui est juste à la frontière.
Ils vont en Allemagne.
En Allemagne, ouais. Juste de l'autre côté de Strasbourg. Et puis, il y a des batailles incroyables, parce que évidemment, il y a des gens qui sont contre lui, donc il fait des histoires sans arrêt. Parce qu'à chaque fois qu'il se lance dans un projet, ça, il y a des problèmes énormes. Parce que en même temps qu'il est éditeur de Voltaire, en même temps, il achète à un libraire flamand 40 000 fusils en pleine révolution. Alors, évidemment, les gouvernements qui se succèdent veulent récupérer les fusils pour toucher du pognon sur la vente des fusils. Donc il a le monde entier contre lui de la Révolution.
Oui, alors tout ça,
parce qu'il voulait se faire bien voir.
Oui, et puis il voulait se faire des affaires aussi, et faire de l'argent. Mais alors pourquoi, lui qui était soucieux du droit d'auteur, lui qui était soucieux de l'édition, lui qui était soucieux de faire de l'argent et de gagner de l'argent, comment se laisse-t-il, entre guillemets, voler le mariage de Figaro par Mozart ?
Alors, il ne se laisse pas voler, c'est qu'il y a un truc qui est amusant, enfin une belle histoire, c'est que il est tout sauf révolutionnaire. Il a tout fait pour s'installer dans la noblesse.
Et pourtant, la phrase dite dans Le mariage de Figaro...
Alors c'est la phrase clé. Mais c'est ça, cette personne qui ne peut pas s'empêcher de dire la phrase qui va le faire condamner. Et cette phrase, je l'ai notée parce qu'elle me passionne, parce qu'il dit, c'est Figaro, donc le domestique, qui dit au comte, qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus, du reste, homme assez ordinaire.
C'est là que ça pique.
Et ça, c'est la base même, le fondement de tout l'Ancien Régime, où tout venait de la naissance. Vous pouviez faire ce que vous vouliez, vous n'étiez pas, comme on dit, né. C'est une phrase insensée. Ouais. Vous n'êtes pas né. On se demande qui vous êtes, vous n'êtes pas né. Donc, ils disent, ça, c'est pas possible. Et quand il lit cette scène incroyable, la première fois avant que ça soit représenté, il lit le mariage de Figaro, enfin, la lectrice officielle de la cour lit le mariage de Figaro devant Marie-Antoinette, qui adore, et Louis XVI qui dit « Jamais je permettrai cette pièce ». Donc cette pièce est là. Mozart se rend compte que cette histoire est incroyable et demande à son librettiste, celui qui fait le livret, qui est d'Aponte et qui mériterait aussi une vie, qui a une vie incroyable, demande de raboter un peu. Et on rabote cette pièce. Et là, ça m'amuse beaucoup parce que dans deux jours, je vais au festival de musique de William Christie en Vendée, à Thiré, et on est en train de monter un petit spectacle qui s'appellera « Du mariage aux noces ». Et qui est avec le passage de la pièce à l'opéra. Et comment on raconte le 18e sur cette affaire-là. Et donc, tous les grands révolutionnaires, Robespierre, Danton, ont dit que cette phrase-là, c'est la phrase qui a mis le feu aux poudres.
un moment donné, une phrase, comme une musique, comme une peinture, mais le feu aux poudres.
Il était quand même malin, brillant,
l'histoire
intelligent.
Était mauvaise,
ouais. Ouais, ouais, mais un peu magouilleur aussi.
Totalement magouilleur. Totalement magouilleur. C'est vrai qu'il n'a pas de frontières. Donc c'est vrai que quand on dit aventurier de la liberté, ouais. Quand on dit aventurier, il y a deux façons de voir aventurier. Aventurier, ça veut dire explorateur, mais aventurier, comme dit le dictionnaire, c'est péjoratif aussi. Donc il y a les deux côtés. Et donc moi, j'aime bien de voir l'ensemble du personnage, évidemment pas le juger, mais voir personne qui est dans la contradiction.
Non, un peu obsédé sexuel, admirant le pouvoir, attiré par
oui, mais
l'argent.
Touchant. Parce
ah, mais je ne parle pas de Beaumarchais, je parle de Daniel Morin.
Voilà,
bien sûr.
Bravo.
Et la vie quotidienne, les amis, peut apporter son lot de surprises inattendues, croyez-moi. Tenez, hier, scène banale, voire affligeante de mon quotidien. Je suis en train de regarder la télé avec ma femme, coupure pub, et pendant la pub, on voit ça.
Son mec l'a trompé. Qu'en est-il du tien ? Envoie Cocu au 732-02 et nos experts répondront aux questions qui te tracassent. Envoie Cocu au 732-02.
Voilà. Un numéro de téléphone qui te dit en fin de conversation si tu es Cocu ou pas.
Tu l'as
n'importe
fait.
Quoi. Non mais attends. Et qu'est-ce que je vois, Nagui ? Ma femme prend son téléphone.
Non, génial.
Mais qu'est-ce que tu fais, Moumoune ? J'appelle. Je veux vérifier un truc. Faut du pas que t'appelles le numéro pour les cocus. Ah, tu t'inquiètes. T'as pas la conscience tranquille. C'est pas ça. C'est des Oui, c'est un peu dégueulasse.
C'est la bonne Moumoune.
C'est des numéros surtaxés. Tu vas payer une blinde pour rien.
Ah bon ? Parce que me tromper, c'est rien peut-être ?
Mais non, mais je te trompe pas enfin. Alors pourquoi t'as peur que j'appelle ? Mais j'ai pas peur. C'est des conneries. Tout ça, c'est de l'arnaque. C'est mon pognon. Je fais ce que je veux.
Ça appelle.
SOS Cocu, bonsoir.
Bonsoir monsieur, alors voilà, j'appelle parce que j'ai des doutes sur mon mari.
Des doutes quant à sa fidélité ?
Oui, c'est ça.
Il travaille où, votre mari ?
À France Inter.
Aïe.
Comment ça, aïe ?
Bah, c'est un grand classique, quand on est mal payé, on va chercher des compensations ailleurs.
Vous croyez qu'il me trompe ?
Je peux pas être catégorique, mais il y a des chances. Il travaille avec qui ?
Avec Nagui.
Ouille.
Comment ça, ouille ?
Ben Nagui a mauvaise réputation, il est connu pour organiser des soirées hyper sales et sans la moindre hygiène.
Je m'en doutais un peu pour vous dire la vérité, il a le vice dans le regard cet homme-là.
C'est ça, oui.
Petit, fourbe, quand il vous regarde le cul, c'est comme s'il regardait une pizza. Moi, personnellement, il me fait très peur.
Vous avez raison d'avoir peur, madame.
Bon ben je suis cocu alors.
Il y a des chances. En même temps, comme dirait Beaumarchais, ça dépend pas que de l'animateur. Votre mari est proche de qui ? Il est proche de ce Nagui ?
Non. Malheureusement, je veux dire, il le déteste. Mais des fois, on se laisse entraîner.
Il y a des invités dans l'émission ?
Oui, à différents tous les jours.
Quel genre d'invité ?
Par exemple, demain, il y a Eric Orsena.
Oh nom de Dieu !
Comment ça, nom de Dieu ?
Il n'y a pas plus vicelard qu'Eric Orsena. Gros consommateur de préservatifs, il passe sa vie à poil et c'est un gros garluchonneur.
Vous êtes sûr ?
100%.
On parle bien du petit monsieur avec des petites lunettes et une petite moustache.
Lui-même. Vous avez déjà fait attention à son regard ?
Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'il a un air louche. C'est ma copine Marie-Martine qui me l'a dit.
Madame, c'est simple, Eric Orsena passe tout son temps dans les clubs échangistes.
Non !
Si.
Il échange quoi ?
Peut-être votre mari.
Quoi ? Mon mari couche avec Eric Orsena !
J'ai pas dit ça, madame, mais vous savez ce que c'est. La notoriété, ça peut être attirant, et votre mari, dans un moment de faiblesse, a peut-être craqué.
La notoriété, ça excite les autres ?
Bon, enfin, bien sûr, ma petite madame. Sans l'attrait, la notoriété, Michel Drucker sera vierge. Bon, au final, elle n'a pas eu sa réponse, ma pauvre femme. Maintenant, elle pense qu'à une chose, c'est rencontrer Michel Drucker. Bon, en même temps, comme dirait l'éditeur de Voltaire... En même temps, c'est bientôt la fin de l'émission et je tenais à vous dire que je vous trouve très très séduisant, Eric Orsena. J'adorerais qu'on aille dîner ensemble un de ces soirs. À demain.
Merci.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Avec des allers-retours entre le 18e siècle et notre quotidien, Eric Orsena, vous avez joué aussi à écrire un tout petit peu au rythme de l'écriture de Beaumarchais, puisqu'il y a beaucoup de citations, de lettres, d'extraits des œuvres de Beaumarchais. Il fallait aussi que la syntaxe ou la musique ou le rythme rejoignent
son écriture. Oui, c'est vrai qu'on est un peu à la manière d'eux.
C'est-à-dire, on plonge de la même manière, évidemment, sans atteindre à ses sommets. Mais quand vous parlez de La Fontaine, c'est forcément, vous mettez un petit peu dans ce mood-là. Et puis le 18e, c'est vraiment ça. On parlait tout à l'heure de Swift qui raconte les histoires de Gulliver. Lisez le vrai texte de Gulliver. C'est incroyable de précision. Pas de méchanceté, mais d'acuité, comme ça, pour choper un peu la...
C'est extrêmement agréable
à lire.
C'est drôle, c'est rythmé.
C'est rythmé, c'est assez musical, essayez.
Totalement.
Et c'est amusant, vous voyez, de faire des chapitres courts et puis d'autres plus longs, de prendre son temps, la mélodie. Vous savez, comme on disait avant, les pleins et les déliés. Mm-hmm.
Ça marche. Éric Orsenna, c'est chez Stock. Leïla, qu'est-ce que tu retiens?
Ouais. La citation de Pessoa qui résume bien et à la fois le personnage de Beaumarchais et puis une sorte d'état d'esprit. N'être qu'un est une prison. Et je trouve que ça, c'est la petite leçon qui se dégage du bouquin.
Et puis, il y a un point qui, moi, que...
Tout à l'heure. Non, vous aurez le mot de la
pardon.
Fin, Éric Orsenna.
Pardon, Tanguy désolé Passureau. D'être venu.
Ouais, qu'est-ce que le fait que Bill Clinton était en jupe, et ça m'excite
d'accord,
beaucoup.
D'accord, très bien.
Tu penses au chevalier des hontes.
La réplique de Figaro, elle est bien citée.
C'est-à-dire
n'être que né
c'est ça. Tom Villa,
qu'il faut persévérer et que Éric Orsenna, comme Beaumarchais, on a beau eu leur dire c'était pas terrible, ils ont bossé 48 heures, ouais. Et puis il y en a un qui a eu le Goncourt et l'autre qui a fait un carton au théâtre.
Exact. Daniel Morin.
Être seul en prison, quelquefois, c'est pas plus mal.
Non
rien
compris.
Ça évite des déconvenues.
Éric Orsenna, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on dise de votre livre après l'avoir lu?
Écoutez, c'est une citation du même Beaumarchais, le Barbier de Séville, acte 1, scène 2. Bannissons le chagrin, il nous consomme.
Joli. Des excuses à présenter,
Daniel. Oh, bien sûr. Désolé déjà pour Éric Orsenna, notre invité qui a découvert ce matin les contrats et le salariat version France Inter, basé sur la gratuité et aussi la bonne volonté. Bon, Éric, on sait bien que vous êtes plus riche que Nagui et Marina Rollman réunis, ce qui fait énormément. D'ailleurs, je veux bien un petit verrement, si vous êtes bon chrétien, vous acceptez. Enfin voilà, je dis ça, je dis rien. Désolé pour Marina Bitchy fucking Rollman. J'ai eu la direction de la radio, de Radio France. Elle a compris le message, mais ils ne peuvent t'offrir, pour l'instant, qu'un sac plastique au champ, déjà utilisé comme sac à vomi par Léa Salamé et Nicolas Demorand. Léa Salamé, quand même, c'est pas n'importe quoi. Et désolé enfin pour les membres de l'Académie française et de l'Académie Goncourt qui ont découvert ce matin de leurs membres éminents faire l'hélicoptère. Eh ouais, c'est ça. À la BO, on est libre, on n'est pas au masque et à la plume, même si là-bas, il se passe des trucs bien dégueulasses qui impliquent souvent, je balance Xavier et le Harper avec des animaux de petite taille.
Oh non.
Merci Daniel, merci Éric Orsenna. La bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même radio, avec l'immense Muriel Robin. Mais tout de suite, les carnets de campagne avec Philippe Bertrand.
Merci Nagui et à demain.